Julie, que tu n'es pas belle, on n'a pas envie de te regarder. Dieu, Julie, que tu te fais vieille, tous les cœurs se rient à te voir passer. Julie, Julie, c'est jusqu'à 25 ans que tu as joué à la poupée. Faute de mieux, faute d'amant, faute d'un seul pour t'embrasser. À la marelle ou au cerceau, le fils du maire faisait le beau. T'aurais bien mis des perles d'eau sur ton tablier à carreaux. Dieu, Julie, que tu deviens laide, même les enfants voudraient te noyer. Quand toute grise et toute raide, tu t'en vas fleurir les morts de l'année. Julie, Julie. Il y avait bien Mathieu l'imbécile, qu'aurait pas fait le difficile. Et Pierre n'avait qu'un mot à dire, même il n'avait qu'à te sourire. Mais déjà tu sentais l'encens, la rose fanée, le vieux temps. Je crois qu'avant de te coucher, il aurait fallu se confesser. Dieu, Julie, il n'y a que les chiens qui te fassent un bout de chemin, jusqu'au cimetière, jusqu'à l'étang, jusqu'au bout de ton dernier chant. Dieu, Julie, tu n'auras pas d'enfant, Julie, tu n'auras pas d'amant. Et quand ton lit deviendra froid, tu auras peur entre tes draps, Julie.
Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Vous êtes toujours à l'écoute de RDWA sur le 107.5 FM. On est jeudi soir, jeudi 15 mars aujourd'hui. Et donc, comme tous les jeudis soirs, c'est l'émission Feu de tout bois qui commence. Alors ce soir, je suis toute seule dans le studio et toute seule derrière le micro. Mes petits camarades m'ont abandonnée. Voilà, c'est le printemps, tout le monde s'égaye un petit peu partout. Mais je suis quand même la fidèle au poste et je vous ai préparé différents petites choses, différents montages sonores qui viennent d'autres radios, des choses que je vais vous présenter.
Sophie, elle est dans son truc là.
Sophie,
attends,
elle
baisse
jusqu'à 21h.
Jusqu'à 21h, c'est ça, mais par contre, on n'est pas du tout le 15 mars, on est en juillet.
Je vous transmets une petite info. Attends, téléphone.
Le 12 juillet. Le 12 juillet, Sophie, écoute, on va te. Voilà.
Calme-toi.
On va en discuter pendant la musique.
En ce moment même, à Saint-Julien-en-Quin, dans les locaux de.
Pas en ce moment, quoi.
C'était une.
Okay. Ah, mais c'était une vieille émission, en fait.
Ouais, c'est ça. Ah là là, elle essaye de nous pirater, quoi.
Mais en fait, par contre, elle n'est pas là, elle.
Non. On est plein de petits camarades. En folie, nous répondons à ton appel, Sophie, et nous avons quelques semaines de retard. Et tout va bien.
Ça ne nous empêche pas d'être là ce soir.
Sur RDWA 107.5 et RDWA.fr en podcast. Et apparemment, tout va bien. Pour commencer par un programme de ce qui se passe dans le Diwa et
juillet.
Ailleurs, et en juillet.
Et alors, on commence par quoi ?
Et oui, par quoi commence
le plus proche, c'est quoi ?
Le plus proche, j'ai quelque chose de fin juillet, je me rappelle plus.
Ah ouais,
non,
moi j'ai avant. Là.
Ah ouais.
J'ai un truc qui va se passer dimanche soir,
ouais.
18h, à la ferme de Polyane, qui se trouve entre Luc, Candiwa et Luzeran. En fait, pour y aller, il faut... En arrivant de Luc, on prend à gauche direction Châtillon. Et juste avant la voie ferrée, Il y a, ça sera indiqué de toute façon, mais il y a un petit panneau Pauliane marqué et on rentre et là on a un petit peu de piste, ça, ça se fait bien quand même. Et puis il y a un concert et en venant de Châtillon, bah, on va direction Luc et puis après Luzeran, et bah, là on tourne dans l'autre sens, donc à droite. Et après la voie ferrée, ce coup-ci. Et donc il y a un concert de musique samba, un groupe brésilien.
Qui
j'arrête pas d'oublier le nom, c'est incroyable. Non, c'est Batanada. D'ailleurs, ils ont été interviewés sur RDIWA et tout. Mais
on peut retrouver leur interview.
Ouais,
sur,
ils ont une interview sur RDIWA. Je sais pas. Quand on va sur, quand on va sur le site, on la trouve en, dans la page d'accueil.
Pour l'instant, hein, si vous écoutez cette émission dans deux ans, ce sera peut-être un peu dépassé. Ouais. Voilà.
Mais vous pourrez chercher.
Batanada. Batanada.
Je crois bien.
Dimanche toute la journée ou dimanche,
dimanche
à quelle heure?
Alors dimanche à 18h et donc ça sera à prix libre. Il y aura aussi des pizzas cuites dans un four à pain. Et puis il y aura aussi un petit bar, voilà. Enfin bref, une petite ambiance conviviale et donc un groupe de samba qui vient jouer. Voilà.
Alors, je suis pas intervenu, mais moi j'avais même mieux que toi.
Ah mince. En juillet.
En juillet, et oui.
Avant dimanche.
Avant dimanche, même à partir de hier.
Voilà. Alors là, tu bats tout le monde à plein de coutures.
Et oui, non, voilà, c'était un campement dans la Val de Souza. On en a déjà parlé pas mal de fois, je pense ici, contre la ligne de train Lyon-Turin. Et voilà, il y a 10 jours de campement et de discussions, de concerts, d'actions. Et voilà, c'est...
Et c'est pas si loin de chez nous que ça, en fait. Quoi.
C'est pas si loin de chez nous que ça. C'est à 3-4 heures d'ici, en bagnole. Donc,
Après Briançon, tout ça, et la route de Turin.
On tombe dans le Val Souza et il y a un camping qui se finit dimanche. Où les actions, la lutte va continuer là-bas.
Qui dure jusqu'au 20, en fait.
Qui dure jusqu'au 20 juillet et qui a commencé hier.
Et qui a commencé hier. Donc il va se passer tout un tas de choses. Vous pouvez aller sur le site des notaves français pour avoir plus de détails. Voilà.
J'ai entendu aux informations d'une radio aujourd'hui que les projets TGV en France étaient peut-être un peu critiqués par une partie du gouvernement. En tout cas il parlait pour les lignes françaises qu'il y a eu 15 ou 17 projets de grandes lignes et qu'il y en a quelques-uns qui vont être sabrés. Alors on peut les sabrer tous peut-être par avance, et puis que celui du Val Souza aussi, il y a eu vraiment plein d'années de lutte, et que s'il est sabré, ce ne sera que justice.
Voilà, à tous ceux qui sont là-bas et qui lâchent pas l'affaire.
Continuons de lutter en France aussi, parce que ça se joue aussi avec des crédits rhône-alpins et français, encore des sous à chercher, on ne sait pas où. Moi, j'avais presque mieux que vous en deux. C'est le vendredi, c'est tous les samedis à 18h et samedi prochain encore, l'apéro tricot sur la place. Là, on est dans les grands projets à fond. Là, cette émission, est-ce que ça ne pourrait pas être une thématique, un fil rouge.
Là, on tient quelque chose.
Ouais. Allez, vas-y, lâche rien.
Donc on en parle régulièrement de cette place à Di. C'est du Diwa Diwa. Donc, rendez-vous tous les samedis à 18h pour tricoter un pull pour un platane et voir ces platanes les protéger du froid et de la voracité municipale en matière de réfection, rénovation de place pour faire de la place de Di une place plus touristique et très très chère. Alors on en discute un peu partout.
Donc ça, c'est sur la place du marché.
Sur la place du marché, dès samedi. Ça a déjà commencé tous les samedis. Et c'est encore tous les samedis pendant l'été, à 18h, apéro tricot.
C'est mieux que les vendredis de 10.
c'est... Ensuite, dans les à venir, dans le Diwa et ailleurs... on arrive à fin juillet, alors là.
Là, on n'a pas mieux, là.
Fin juillet, Rock in Gats. Comme tous les ans, dernier week-end de juillet. Alors que je retrouve mon aide mémoire.
C'est le 27, non, c'est ça?
C'est ça, vendredi 27 au soir, des projections. Et samedi 28, toute la journée, à Glandage, aux Lavandes, de la radio, des informations, et le soir, des documentaires en plein air. Alors, il faut penser à venir couvert, c'est le dernier week-end de juillet, vendredi 27 et samedi 28. Voilà, à Glandage, c'est facile à trouver aussi, puis on verra plein d'affiches, ouais, qui expliqueront tout ça.
Et ce sera autour de quoi alors ce...
Alors, ah, quelle est le thématique?
Une grande
Est-ce qu'on reste dans le fil?
Autour des grands projets de, en soutien à Notre-Dame-des-Landes et à, enfin à des Landes et à la zone à défendre pour, contre la construction de l'aéroport, soutenu par d'un côté Jean-Marc Ayrault et contre Jean-Marc Ayrault, une sorte de gros politicien du coin et gros politicien national qui veut à tout prix construire un aéroport, et d'autres, plein de paysans, plein de gens qui disent non, non, non. Alors on en saura un peu, enfin on en parle aussi régulièrement et on pourra avoir des compléments d'informations et des documentaires là-dessus à Rockin' Gats fin juillet. Ensuite quoi ? Moi j'ai une date le 8 août, le mercredi 8 août.
Vas-y.
À Marivieille qui est un fort joli coin de la limite du Diwa.
Du
Haut Diwa, à Bellegarde en Diwa. Une journée qui sera la première journée d'un cycle pour en finir avec la psychiatrie. Alors qui sera une sorte de journée autour de l'art-thérapie. Mais l'art-thérapie, c'est quelque chose qui c'est un nom qui est réservé. Alors on a préféré le mot de création soin. Voilà, parce qu'en plus art, c'est un peu poète, bof. Et thérapie, ben, ça suppose que la maladie existe, par exemple. Alors que soin, on n'a pas besoin de maladie pour prendre soin les uns des autres. Du coup, on s'est dit création soin à Marivieille le mercredi 8 août. Et l'accueil est prévu dès la veille au soir jusqu'au jeudi matin, si vous le désirez. Et on peut apporter son matos et pour créer pendant une journée librement, en plein air ou pas, on verra. Et puis discuter de tout ça et d'un cycle. Alors je peux continuer, je peux embrayer sur le cycle. Contre la psychiatrie, il y aura plusieurs tables de presse, dont une table de presse à Rockin' Gats, et plusieurs tables de presse à d'autres moments, sur le marché à Die, et qui nous mèneront jusqu'à un cycle, jusqu'à...
Il va où ce cycle?
Jusqu'à, oui, ce cycle, ça roule, ça monte, c'est la spirale magique contre la psychiatrie, qui nous mène fin octobre, et aussi des interventions radiophoniques, par exemple la fabrique du patient, qui serait possible de diffuser 4 épisodes de 10 minutes dans notre chère émission Feu de tout bois au mois d'août ou au mois de septembre. Aussi des émissions ou une émission sur Radio Labo, sur Radio Méga à Valence. Et fin octobre, on pourrait se retrouver le mercredi à Valence, dernier mercredi d'octobre, le dernier jeudi à Cré, le dernier vendredi d'octobre à Die, et le dernier week-end d'octobre à Marivieille, près de Bellegarde en Diwa, où tout aura commencé le 8 août, pour sur 2 jours, discuter de ça, de comment finir avec la psychiatrie, comment monter des choses localement pour nous entre-aider sur cette épineuse question de la souffrance mentale. On en reparlera donc. Et à propos, nous avons un envoyé spécial ce soir.
Ah oui,
qui n'est pas là, et pour cause, il est envoyé à la projection du Pestel du dernier film de Denis Lavant qui s'appelle Holy Motors, un film de certains Carax. Et ça m'a rappelé, alors peut-être que notre envoyé spécial si ça vaut le coup, nous en parlera une prochaine fois. Et ça m'a rappelé que Denis Lavant avait tourné le film Visiblement, je vous aime, et le documentaire sur le film Un peu beaucoup à la folie, qui est un film sur le Corral, un lieu de vie en Camargue, un lieu d'accueil. C'est un film de Jean-Michel Carré, un film du Grain de Sable, et... Il se trouve que c'est la même maison de production que le film qui serait projeté à Die. On a ces boucles là, non mais c'est
non, on est dans la boucle.
On n'est plus dans le grand projet, on est dans le, dans la boucle, qui serait projeté à la fin de, enfin au milieu, pendant ce cycle, pour en finir avec la psychiatrie, a dit le dernier vendredi d'octobre. Voilà, l'intention, c'est de projeter un film des grains de sable, édition, production, qui serait un film beaucoup plus récent que Visiblement je vous aime, qui est le film Sainte-Anne, hôpital psychiatrique,
ouais,
je crois qu'il s'appelle comme ça. On ne sait pas où. Voilà, mais...
Et on a fini avec cet agenda, alors ?
Et on a fini avec cet agenda. On a beaucoup parlé de méga-projets. Alors, après la pause musicale que je n'ai pas du tout préparée...
D'accord, ben moi non plus.
Je vais mettre un... Ah ouais, non, mais je sais, direct. Tac.
Et ouais, après cette pause musicale que nous concocte Aline, on va parler d'un grand projet inutile et assez stupide, à savoir faire un stade de football pour recevoir plein de personnes pour un club de football lyonnais qui s'appelle l'Olympique Lyonnais. On en reparle.
Gentle Vine Cut. Un disque. Gentle Vine Cut. Un disque qui s'appelle Cupid Mount Etna. Gentle Vine Cut, ce que ça pourrait vouloir dire, on se coupe les veines gentiment.
Ah ouais.
Voilà.
Ah ouais, bah oui.
Du coup, le Mont Etna Cupid est le titre de l'album et le Space Bar, le premier morceau de ce disque.
Et donc on parle d'un grand projet inutile pas loin de chez nous, à Lyon, enfin plutôt à côté de Lyon, à 15 km de Lyon, dans un village qui s'appelle Décines, où il y a l'idée... porté par le club de foot l'Olympique Lyonnais, de faire un grand stade pour la compétition de l'Euro 2016 qui se déroulera en France. Et donc, il y a un stade déjà, évidemment un grand stade à Lyon, et là, ils vont gagner 20 000 places pour un projet qui coûte quelque chose comme 600 millions d'euros. Il y a déjà 200 millions qui sont... partie des caisses de l'État, enfin en tout cas qui sont en partance des caisses de l'État pour financer ce projet, parce que la Jean-Michel Aulas, qui donc il est président du club de l'Olympique Lyonnais à le bras long, et puis a réussi l'année dernière à faire passer ce projet en tant qu'utilité publique. Et comment il a réussi ça, c'est un coup de force assez fort, parce que c'est avant tout pour son club que ce stade va servir, et puis pour les quelques matchs qui vont se dérouler pendant la compétition de l'Euro 2016. Et bah, comment il a réussi ça, tour de passe-passe, dont je connais pas tous les mystères, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de... Enfin, il y a quand même beaucoup de pression et de lobbying derrière tout ça.
En même temps, on peut dire que ce qui rentre dans la définition de l'utilité publique est souvent assez mystérieux.
Ouais, c'est sûr. Là, quand on fait des... Surtout quand on parle de grands projets inutiles, c'est souvent très très mystérieux. Et donc en plus, qui se charge de construire ce stade, je vous le donne en mille, c'est Vinci, dont on a beaucoup parlé déjà ici, puisqu'il se charge déjà de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Ils vont croire qu'on mène une cabale contre eux, quoi.
Ouais, ou alors c'est eux qui mènent une cabale contre nous, je sais pas dans quel sens faut le prendre, quoi. Mais bref, toujours est-il qu'il y a une cinquantaine d'hectares qui sont concernés. Ce sont des terres maraîchères pour l'essentiel de ces terrains-là. C'est des terrains, donc c'est à 15 km de Lyon, mais c'est encore une zone de production maraîchère et de céréales. Et donc, il y a des terrains qui ont commencé à être achetés, mais il y a des paysans qui résistent et qui sont en passe de se faire expulser. Donc, derrière ce projet qui s'appelle OL Land, un fabuleux nom. Il y a donc un stade de 60 000 places, il y a un centre d'entraînement, il y a les bureaux du siège de OL Group, parce que c'est un groupe qui est coté en bourse, ce club de football. Il y a une boutique, il y a 7 000 places de stationnement, 8 000 m² d'immeubles, de bureaux, deux hôtels de luxe, enfin bref, des accès routiers évidemment, et puis du tram, enfin voilà, des grosses infrastructures et forcément un sacré paquet d'argent. Donc c'est ça, le Gérard Collomb, qui est le sénateur et maire socialiste de Lyon, a un peu lui a estimé que ça équivaudrait à 200 millions de la part de la collectivité pour financer ce projet, sachant qu'il y a eu des révélations autour de ce projet, parce qu'il y a en 2006, avant l'annonce officielle donc de ce projet, le Grand Lyon, donc l'agglomération du Grand Lyon, a acheté des terrains à des agriculteurs sur un terrain qui s'appelle le Montou, et qu'il a acheté ça à des prix vraiment dérisoires, entre 7 et 14 euros le mètre carré. Et en avril 2011, l'année dernière, le Grand Lyon a cédé 30 hectares à l'Olympique Lyonnais au prix de 40 euros le mètre carré. Et du coup, quelques mois seulement après la vente, le conseil communautaire du Grand Lyon a fait approuver la révision pour faire ce projet, quoi. Donc c'est là-dessus, ils ont acheté ça à une somme dérisoire, et maintenant ça vaut une fortune, tout simplement. Et même avant que le grand projet se fasse, ils avaient déjà acheté ces terrains, donc il y a un peu collusion entre la mairie de Lyon, la communauté d'agglomération et l'Olympique Lyonnais, qui récupère un sacré pactole, parce qu'il achète pour pas grand-chose des terrains maintenant qui valent une fortune. Il y a eu des demandes de référendum dans ce village, donc qui compte près de 4000 habitants, où il y a pas mal de personnes, 20% des électeurs qui avaient demandé un référendum sur l'implantation du stade dans la commune. Donc le maire a été obligé d'inscrire ce sujet à l'ordre du jour et finalement il a refusé d'ouvrir la consultation. Là où on en est aujourd'hui, c'est que il est prévu d'être fini, je crois, en fin 2014, quelque chose comme ça. Et donc ça avance à grands pas. Et il y a des personnes qui face à ces mécanismes, face au pouvoir de l'OL à vouloir imposer ce stade et contre toute d'utilité publique, malgré l'évidence que ça n'est pas un projet d'utilité publique. Il y a des personnes qui ont décidé d'occuper des terrains qui sont censés en fait amener une route qui permettra après la construction de toute cette infrastructure. Donc depuis le 10 avril de cette année, il y a un champ qui est occupé là-bas, il y a un camp qui s'est monté avec des personnes qui sont en habitat léger, qui ont implanté les potagers, qui ont implanté, qui ont réussi à avoir de l'eau, qui ont le soutien des gens du coin, des agriculteurs et aussi des habitants. Et du coup, ils ont... Ils sont implantés là dans le but d'empêcher tout travaux. Et puis d'y vivre aussi et de porter une autre forme de vie aussi face à au bitume envahissant. Ils proposent quelque chose de plus, une économie plus locale, solidaire, enfin bref, et d'autres valeurs. Et ils ont organisé il y a une semaine, si mes souvenirs sont bons. C'était entre la fin juin et le début juillet. Et ils ont organisé des rencontres pour présenter ce qui se passait là-bas et en même temps parler de tous les grands projets inutiles en place. Et notamment, il y avait des gens de Notre-Dame-des-Landes qui étaient là pour parler de l'aéroport donc qui va se construire à côté de Nantes. Il y avait des gens de la vallée de Souza qui sont venus parler aussi de la construction de la ligne TGV Lyon-Turin. Et donc voilà, ça vaut le coup d'œil si vous avez l'occasion de passer à Lyon, de voir un peu ce campement, de voir comment ces gens s'organisent et de mettre un peu un frein à cette gloutonnie, ça existe, spéculative et puis de bitume quoi.
Entre gloutonnerie et monotonie,
c'est la monotonie
habituelle de la grisaille. Ce camp continue à dessiner alors.
Ce camp continue parce qu'ils n'ont pas envie que ça se fasse et du coup ils seront là tant que le projet sera encore en place. Quoi.
Et à Décines, c'est une quinzaine de kilomètres de Lyon, en quelle direction
C'est à l'est de Lyon,
okay.
Mais je ne saurais pas dire précisément comment on y accède. Juste un truc aussi, il y a eu tout un tas de recours administratifs qui ont un peu ralenti la chose. Et c'est vrai que maintenant ils sont un peu dans une impasse où... Pour ce projet, s'ils veulent construire, c'est maintenant. Et visiblement, ça a quand même un peu limité ça a en tout cas entraîné des ralentissements, tout un tas de recours et les occupations qui sont en place. Il y a eu un procès aussi contre un agriculteur qui doit être expulsé à la fin du mois. Donc tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'ils tiennent et qu'eux, ils ont une date butoir, c'est 2016, et même faut qu'ils soient construits bien avant. Donc tout faire pour ralentir les travaux et qu'à un moment, ils décident d'abandonner ce projet-là, quoi.
Ça me rappelle furieusement un certain grand stade à Grenoble, le stade du parc Mistral, où il y a eu une forte lutte, une forte mobilisation, et des cabanes construites dans les arbres, et une mémorable expulsion avec une armée de flics Robocop qui virent tant bien que mal pour eux, avec un petit peu de mal pour les occupants de l'occasion de violence policière habituelle. Ce stade a été construit pour la ligue de football, pour l'équipe de football de Grenoble, qui depuis a bien dégénéré au niveau des classements. Mais le nouveau truc à Grenoble, le nouveau grand projet, ce sera le stade de rugby maintenant. Là, l'équipe de rugby de Grenoble monte.
Ils ont tout misé sur le rugby.
Là, on va construire un grand stade de rugby. Donc c'est peut-être effectivement, il y a des mystères, les mystères habituels dont tu parlais au début. C'est aussi un maire socialiste à Grenoble qui a fait adopter un grand projet qui a été construit. les stades pourront, une fois que les stades sont en place, de toute façon, peu importe qu'il n'y ait pas de match dedans, ça peut toujours servir à parquer les opposants en cas de besoin.
Oui,
en cas
voilà, de beaucoup d'opposants. Plein d'utilité. Hein.
Bon, ça c'est déjà vu, ça se voit régulièrement.
Et au pire, il y a Johnny Hallyday qui passera et on ira voir un beau concert.
Oui, c'est sûr. Que soit ce sera Hallyday, soit ce sera une sorte de Victor Jara local ou des opposants qui, nous l'espère, chanteront et feront exploser cette fois les portes du stade et ne se feront pas descendre par les mitrailleuses des soldats, mais la porte est ouverte hein, quand les stades sont là. C'est, on peut faire du camp de rétention à l'intérieur en cas de crise. Ouais. Et
ça a souvent servi à ça en l'histoire.
Ouais.
Mais c'est un grand projet, on est en plein dans le fil rouge.
Est-ce qu'on le tient ? On le garde. Allez.
Vas-y, t'as un bout peut-être là sur toi ?
Ouais, ouais, là j'ai récupéré un bout de ficelle là. Et du coup, on va vous parler là de du deuxième forum contre les grands projets inutiles et imposés. Alors moi je pense que ça tombe quand même dans le vif du sujet là. Et qui s'est tenu du 7 au 11 juillet à Notre-Dame-des-Landes, en France, près de Nantes. Alors c'est un peu une initiative qui commence à se développer là au niveau en France et aussi autour de pas mal de luttes en Europe et dans le monde. Donc l'idée c'était de faire un forum pour rassembler pas mal d'acteurs de lutte locale et pour voir de quelle façon on pouvait essayer de s'organiser ensemble et être plus efficace et voilà, gripper un peu plus la machine de ce capitalisme qui nous bouffe tous, qui nous bétonne tous petit à petit.
Sur cette ligne que t'as acheté, il y a vraiment...
Non, là, c'est, là t'es trop loin dans le fil, là. Là, je suis encore sur Notre-Dame, là.
Oh, n'importe quoi. Là, il y a un petit point technique, il y a un buzz.
Voilà, après, c'est un le buzz technique.
Alors, il y avait déjà un buzz dans l'émission de la semaine dernière, un comme ça qu'on nous a gentiment fait remarquer, mais on ne sait pas comment. Ok, alors c'est peut-être mes oreilles qui buzzent et les oreilles de la personne voilà. Qui m'a fait remarquer ça, qui est quand même une. Bah, du coup, salut Baptiste. Mais... Écoute, on en reparlera de ce buzz. En fait, je me mets à entendre des trucs, mais soit mes camarades sont sourds, soit c'est nous. Soit c'était autre chose. Donc, du coup, Notre-Dame-des-Landes, grand projet.
Alors, autre grand projet, bien sûr. Et donc là, il y avait des gens de Val-de-Souza encore, des gens de Stuttgart, où il y a aussi un projet de super aéroport. Il y avait aussi des compañeros mexicains qui étaient là pour parler un peu de toutes les exploitations minières et tous les, enfin le projet là dans l'isthme de Tehuantepec de construire un méga système d'éoliennes et en même temps de faire concurrence au canal de Panama et pour acheminer toutes sortes de marchandises d'un océan à l'autre. Enfin bon, le Mexique est pas en reste aussi au niveau de tout ce qui peut participer à détruire des modes de vie traditionnels, locaux et détruire la vie en général. Et donc c'était l'occasion d'échanger et de comme je disais, de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et comment on peut avancer. Et je vais vous lire la déclaration de clôture qu'est-ce qu'elle est, qui est un texte assez large hein, donc qui devait faire consensus aussi entre toutes les organisations et toutes les formes de pratiques, toutes les pratiques qui peut y avoir qui peuvent exister entre les différents opposants à ces différents projets . Donc nous participons au deuxième forum contre les grands projets inutiles et imposés à Notre-Dame-des-Landes du 7 au 11 juillet 2012. Soutenons et exprimons notre entière solidarité à la lutte des habitants de Notre-Dame-des-Landes et de la région et de tous ceux qui la soutiennent en France et bien au-delà contre le projet de nouvel aéroport pour la ville de Nantes. Dénonçons la répression exercée sur les habitants et militants. Réaffirmons notre soutien mutuel à toutes les luttes contre les grands projets inutiles et imposés en Europe et dans le monde. Nous nous sommes rassemblés pour identifier, recenser, combattre les grands projets que nous reconnaissons inutiles, ruineux en fonds publics et socialement injustes, écologiquement destructeurs ou dangereux et qui excluent les populations de la prise de décision. La plupart de ces projets, dévoreurs de terres agricoles et d'espaces naturels, ne permettent pas la souveraineté alimentaire. Ils mettent en péril la diversité culturelle. Ce deuxième forum a permis de rassembler une quarantaine de collectifs et organisations, dont une quinzaine de l'Europe et au-delà. Plus de 8000 personnes ont participé aux divers ateliers. Il a été très riche d'échanges et de perspectives d'action, de partage d'expériences et de construction d'alternatives aux grands projets et pour d'autres choix de société. Nous avons décidé la coordination de nos luttes à l'échelle européenne et au-delà par la création d'un groupe de travail permanent ayant une fonction d'alerte et de mobilisation, la mutualisation de nos expériences, la mise en commun de moyens, la création d'un groupe européen de compétences scientifiques, techniques et juridiques, l'étude de l'opportunité et de la faisabilité d'une initiative citoyenne européenne, ne m'en demandez pas plus, notre participation au Forum social européen de Florence du 8 au 11 novembre 2012, pour reprendre le fil de l'agenda, notre participation au Forum social mondial de Tunis en mars 2013, l'organisation d'une journée d'action décentralisée et coordonnée le 8 décembre 2012, troisième journée européenne contre les grands projets inutiles et imposés, et l'organisation du troisième forum des grands projets inutiles et imposés à Stuttgart en 2013. Nos luttes concrètes, leur convergence font émerger aujourd'hui le concept de grands projets inutiles et imposés. Nous voulons expliquer et populariser largement ce concept. Nous sortons du forum plus que jamais motivés et déterminés à poursuivre nos objectifs et continuer à relier nos combats.
Eh bien, toutes ces voilà, tu parlais de calendrier, d'agenda, toutes ces dates, on les retrouve sur un site peut-être.
Ouais, on les retrouve sur les sites des opposants à la ZAD.
Ok.
Alors, je saurais pas dire comment ils s'appellent exactement, mais bon, sur Google, ça se trouve quoi.
Aéroport, zone à défendre ou ZAD.
Ouais, il y en a plusieurs en plus. Il y a différents collectifs. Et voilà, c'est pour ça que là aussi, ce texte est assez large dans ses. Dans son propos. Et
ce texte est peut-être sur plusieurs sites opposants d'ailleurs.
Aussi, ouais, d'ailleurs.
J'ai une petite remarque, je vais attendre de remonter un peu le micro, vas-y, voilà. Commence par nous.
Voilà. Voilà, j'ai une petite remarque qui n'a rien à voir avec les grands projets inutiles et imposés, mais on n'est pas obligé d'utiliser Google aussi, parce qu'en plus on fait de la pub pour une entreprise. Bon, du coup on peut faire la pub pour d'autres choses un peu plus sympas, parce que Google il a la méchante manie de bien enregistrer tout ce que vous faites, ce que vous recherchez, et il conserve ça, et un jour, qui sait, ça pourra bien servir à des personnes mal intentionnées, avec des képis ou avec d'autres uniformes. Et on peut passer, il y en a plusieurs je pense, mais moi j'en connais un qui s'appelle XQuick, avec un I, un XQUICK, XQuick, donc, où la confidentialité est de mise, et il ne garde pas votre adresse IP par exemple, ce que fait votre adresse IP, c'est votre adresse qui qualifie tout ordinateur et ce qui permet de vous suivre après sur internet. Eux, ils ne la gardent pas en trace, ce qui fait qu'ils ne savent pas ce que vous faites de vos recherches, et c'est tant mieux. Donc voilà, un peu.
Ben, je te remercie de me l'apprendre.
Mais oui, c'est vrai qu'on ne sait pas trop tout ça. Il doit y avoir d'autres moteurs de recherche.
Il y a d'autres choses encore, je pense. Mais ouais, Google, faut.
Toujours. Moi, c'est comme une copine là que je voulais lui faire une spéciale dédicace, qui construit sa maison actuellement, et elle fait le bardage du toit en dos.
En quoi ?
En dos, voilà, des sortes de planches rondes là. Et je voudrais te dire à la radio, fais-le plutôt en Linux.
D'accord.
Merci. C'est un tout petit projet, ça n'a rien à voir. C'est une petite cabane.
Fort utile, d'ailleurs.
Ah, qui est super. Alors là, j'ai fait
par ailleurs. Et bien, sur ce.
De retrouver sur Internet les dates dont on a parlé sur les grands projets. On va continuer à en parler de ces grands projets.
Ouais,
tout
on
de suite,
aura l'occasion de vous en reparler.
Tout de suite.
Mais en tout cas, on peut aller, pour revenir sur le projet de OL Land, on peut y aller là-bas. C'est pas parce qu'il n'y a pas de rencontre en ce moment. Il y a un camp, les gens ils sont ouverts et ils sont gentils à ce qui paraît. Alors on peut y faire un tour si on veut.
Yeah, bienvenue.
Qu'est-ce qu'on fait ? On s'écoute
Ouais, on peut s'écouter une pause. Alors, je crois que c'est un morceau...
Un petit cure.
Allez, de la musique commerciale. Faut lui dire n'importe quoi. Là. C'est un titre qui est motivé par rapport au thème, ou que tu veux dire, ou que tu veux dire plus tard
Non, pas spécialement. C'est Killing an Arab. Bon, c'est un titre qui a fait polémique, mais qu'on pourra expliquer après. après la chanson.
C'est parti.
Parler, on va faire une pause grand projet industriel nuisible. Et là, il y a des, il y a un ensemble de choses qui disparaît, qui étaient venues du secteur industriel en Espagne. On commence à en entendre parler maintenant un peu partout. Il paraît dans les médias. Moi, j'ai pas la télé, mais on m'a dit qu'on en parlait à la télé. Et c'est les mineurs espagnols qui manifestent contre la restructuration. Maintenant, on appelle ça, enfin, on pense à la fermeture, clairement, du secteur minier. Dans les Asturies dans les provinces d'Asturies et de Léon, qui sont situées au nord, à l'ouest du Pays Basque, plutôt, oui, à l'ouest, ça. Et parce que le charbon espagnol, il est plus cher, il coûte plus cher finalement à le produire en Espagne qu'à l'importer d'ailleurs. Et que le gouvernement espagnol a décidé de supprimer les subventions. C'est la crise, du coup, il faut liquider un peu des subventions et les sous qu'on donnait avant. Donc il y a les banques ne sont pas spécialement touchées, mais les services publics et puis l'industrie minière, qui n'est plus si productive, a reçu des grosses coupes budgétaires de 63%. Et donc du coup ils vont passer de 301 millions d'euros en 2011 à 111 millions cette année, et ça va tuer clairement le secteur minier en Espagne, de toute façon, qui survit déjà. La plupart des mines ont été fermées, il y en a quelques-unes qui tournent encore, mais c'est très peu. Et donc c'est 8000 mineurs qui vont se retrouver sur le carreau, plus la perte d'emploi liée à tous les secteurs annexes, qui fait que c'est 30 000 personnes qui risquent de se retrouver sans boulot. Et donc, on a vu certainement, j'imagine, je n'ai pas la télé, mais des images spectaculaires de personnes qui manifestent en Espagne avec encagoulés, qui ont des espèces de bazookas à base de barres de fer et de feux d'artifice. Et voilà, depuis la fin mai, ils ont entamé une grève illimitée. Avec donc des blocages des voies ferrées, des blocages des routes, des autoroutes. Il y a eu plus de 300 blocages durant les trois premières semaines. Donc il y a eu un ensemble de dispositifs policiers qui a été mis en place. peut-être rapidement, il y a eu quelques actions, pour citer un peu ce qu'ils ont pu faire, d'assez sympathique pour faire entendre leur voix. Il y a le 12 juin dernier, ils étaient 10 000 à manifester dans la ville de Léon, c'est la capitale des Asturies. Ouais, c'est ça, des Asturies. Dont 1500 mineurs et des gens qui les soutiennent. Le jour d'après, il y a un groupe de mineurs qui s'est invité dans la Chambre des députés de Madrid et qui sont venus perturber le déroulement avec des pancartes où ils disaient ils veulent en finir avec tout et non à la fermeture des mines. Évidemment, ils ont été expulsés par la police très rapidement. Ça a grossi, si bien que le 18 juin, ils étaient 50 000 à manifester dans les rues d'Oviedo et 15 000 à Léon. Il y a eu pas mal de barricades, de blocages qui sont faits. Il y a eu des gens qui se solidarisent maintenant avec ces mineurs dans cette zone, des personnes qui sont mises en grève dans les écoles, les boulangeries, les bureaux, les supermarchés. Et donc, du coup, des troupes spéciales de la garde civile ont pris place dans cette région. Et maintenant procède à pas mal d'arrestations et ont installé même des checkpoints un peu partout dans ces différentes régions. Donc là, et là récemment, du coup, ils ont lancé une marche qui était partie, je crois, vers le 19-20 juin en direction de Madrid. Ils sont arrivés hier à Madrid et il y a eu, j'ai vu un peu des images, il y a eu quand même des milliers de personnes. Je sais pas, j'ai pas vu de chiffres précis, mais qui ont manifesté dans les rues de Madrid en direction du ministère de l'Industrie. Pour protester contre la fermeture de ces mines. Et il y a eu des affrontements suite à ça. C'est quelque chose. Il y a eu un peu des actes de solidarité qui commencent à naître en France par rapport à ces gens-là, contre la fermeture des protestations devant les consulats et ainsi de suite. C'est sûr qu'en temps de crise, l'État profite de ça, et les groupes capitalistes aussi, il y a quand même une crise réelle qui affecte l'économie. Et des secteurs de l'économie, comme ces secteurs du charbon, qui sont plus en place en France depuis quelques temps, sont les premiers le premier liquidés parce qu'ils sont plus jugés comme étant rentables. Ça, en plus, certainement, peut-être, ça a duré parce que c'est un secteur de forte résistance. Avant déjà, c'est déjà en 1934 Franco qui allait mater les mineurs en Asturies et en Léon. Il y avait eu des grandes grèves qui ont précédé la Révolution espagnole. Et puis dans les années 60, 70, enfin, c'est un secteur de forte résistance. Et voilà, là on est en... Alors c'est un secteur qui... oui, le charbon, c'est polluant, c'est pas... C'est peut-être pas l'énergie la plus propre ni quoi que ce soit. Du coup, on est face à quand même une production industrielle qui n'est pas forcément saine. Malgré tout, il y a des gens qui vivent de ça et qui survivent. Et du coup, c'est vrai que la position, quoi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais chers collègues, mais ces mineurs, ils sont tout en droit de manifester et de réclamer le maintien de leur industrie, mais... Il y a aussi une réflexion certainement à avoir sur le rôle de cette industrie et peut-être comment la faire vivre autrement aussi, quoi. Même si là, c'est dans une situation d'urgence, quoi.
On parle vraiment souvent d'énergie à feu de tout bois sur Radio Diwa. C'est un thème qui nous passionne. Le feu, c'est... Voilà, c'est... on peut faire du feu aussi avec du charbon. Avec quoi fait-on, avec quel bois et quel matériau fait-on notre feu autogéré et révolutionnaire social? Et le charbon, c'est un truc intéressant. On dit qu'on a franchi le pic pétrolier ou qu'on en est proche. Alors que pour le charbon, il me semble qu'il y a plusieurs centaines d'années de réserve. Il y en a beaucoup encore sous terre. À l'heure où on essaie de fracturer les sols pour trouver du gaz de schiste, peut-être qu'on pourrait éviter... c'est en tout cas des trucs où comment, enfin ça me fait penser aussi à un autre truc, c'est qu'en fait c'est à qui appartiennent ces mines et ces gisements. On peut dire que c'est aux gens qui y travaillent et que du coup ce serait à eux de décider, que ce qu'il y a à craindre dans le cas de fermeture comme ça, c'est aussi l'expropriation d'une richesse, qu'il y a des mineurs et peut-être aussi des mineuses de fond et d'autres sans grade qui sont esquintés pendant des années, et peut-être que eux sauraient quoi en faire de ce charbon. On peut imaginer des circuits de distribution autogérés d'un tel produit qui peut être utile. Mais encore faudrait-il qu'on en discute collectivement, ce qui n'est pas le cas. Là, c'est le grand capital qui dit on ferme, et on met tout le monde dehors.
Ça vient d'en haut, là.
Et débrouillez-vous après pour gagner votre vie, quoi. Bah, je trouve après intéressant dans ce qui est un peu en train de se soulever, c'est qu'il y a des solidarités qui se créent avec d'autres secteurs. Et bah, notamment avec les gens de Somonté, on en avait un petit peu parlé d'une grande... il y a 400 hectares en tout, je crois. Il y en a pour l'instant 40 d'occupés par des journaliers du secteur agricole qui reprennent en main. C'est en Andalousie, ça, mais il peut y avoir des solidarités qui se créent entre ces différentes luttes, entre ces différents secteurs. Et puis après, des échanges qui peuvent se faire aussi. Pourquoi pas du charbon contre des légumes, quoi. Et puis c'est en ça que ça peut être intéressant de discuter aussi du projet de société, d'avoir le temps de faire ça, parce que là, on les met dans l'impasse où et ben bientôt, ils vont être dans l'impossibilité de vivre comme ils vivaient avant, même si c'était une vie difficile. Et bah, du coup, bah, c'est peut-être remettre en cause un peu plus largement la façon dont on vit et créer des liens de solidarité qui permettent de s'en sortir sans les grandes entreprises minières ou autres, quoi.
Ouais, parce qu'on peut imaginer aussi que quand il y a une lutte comme ça qui éclate, que du jour au lendemain, non, parce que c'est des industries qui sont quand même mourantes depuis plusieurs décennies dans les pays, en tout cas, qu'on va dire occidentaux et riches, quoi. Mais que quand il y a une lutte comme ça qui éclate, et ben ça fait aussi prendre conscience aux gens qui travaillent du fait qu'ils sont effectivement à la merci de décisions dont ils contrôlent pas du tout les ressorts, et que c'est aussi une occasion bah, justement de réfléchir et c'est une forme d'émancipation aussi là, enfin,
contrôle ouvrier de toutes ces industries du capitalisme industriel. Ça fait penser aussi où en ce moment en France apparemment 8000 aux environs de 8000 personnes de PSA, une grande fabrique de voitures que vous connaissez peut-être. Les voitures, c'est des trucs qui ont quatre roues, qui tuent, qui polluent et qui puent et qui souvent gueulent aussi. Et donc 8000 personnes vont arrêter de fabriquer cette merde, enfin non, cet engin de destruction massive qu'est la voiture. Que sont les voitures, camarades de PSA? C'est pareil, alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la récupération des usines puisqu'elles vont plus servir à fabriquer ces engins de destruction? Est-ce que des morceaux de chaîne vont être récupérés pour venir... Voilà, je pense qu'il y a de la place pour le DIY, pour des petits bouts de chaîne de montage, parce qu'il y a toujours, tous les ans, la descente de caisse à savon de Barnave, par exemple, et on pourrait imaginer de récupérer des trucs à souder, des trucs, des ferrailles, des outils pour fabriquer des engins plus autonomes, plus DIY, et que c'est l'occasion pour 8000 personnes d'un coup comme ça de changer de vie.
Ouais, après souvent ce qui se passe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi, c'est qu'ils se retrouvent juste sur le carreau et puis ils vont juste chercher un boulot, n'importe lequel, qui vont permettre de faire un peu rentrer dessous parce qu'ils ont des crédits derrière, des choses comme ça. Et que, bon, malheureusement, on ne sort pas d'économie capitaliste du jour au lendemain.
Ça va.
Ouais, en tout cas, c'est vrai que ça soulève des questions hyper complexes, quoi. Effectivement, on se retrouve en face de si une industrie ferme, une industrie lourde qui produit quelque chose qui affecte nos modes de vie, qui affecte nos bronches, qui pollue, qui pue, etc. En soi, on peut être content que des voitures soient pas produites. Mais en même temps, voilà,
elles seront produites ailleurs
complètement. Mais c'est voilà, c'est pour souligner un peu le genre de dilemme devant lesquels on se trouve en fait dans ces cas-là aussi, quoi. Il s'agit, enfin là, il y a aussi voilà des milliers de personnes qui se retrouvent sur le carreau sans rien et dépossédés du peu en tout cas de savoir et de savoir-faire qu'ils avaient pu.
Ouais, puis on voit la situation un peu plus extrême par exemple en Grèce où il y a des gens qui s'auto-organisent et qui arrivent à s'en sortir, puis il y a la majorité quand même qui galère et qui s'en sortent pas, quoi. Qui crèvent, qui arrivent peu à soigner, qui. Voilà.
Donc toutes les pistes d'auto-organisation sont bienvenues parce que les usines d'armement aussi. Tiens, c'est curieux là, les coupes budgétaires ne prévoient pas de fermer. Les usines d'armement françaises, ou alors on en parle peu, et il y a aussi des syndicats éminents qui ont défendu sous le prétexte de produire français ou de défendre l'emploi, les usines d'armement, voilà, y compris nucléaire aussi, les usines pour fabriquer des bêtes mitraillettes qui tuent des gens à travers le monde entier, en disant de toute façon, mais pareil, si on les fait pas en France, on les fait ailleurs, alors autant fabriquer des mines antipersonnelles en France, parce que comme ça on peut former des démineurs qui savent les défaire, les déminer quand le conflit est fini, que si elles sont fabriquées ailleurs, on saura pas. Mais c'est un peu toujours ces trucs-là, effectivement, des voitures peuvent être aussi fabriquées ailleurs, ou si on arrête le charbon, et ben du coup on verra du gaz de schiste ailleurs, et les pistes d'auto-organisation sont à développer, quoi, à se réapproprier, si on peut se réapproprier des bouts de chaîne d'usines d'armement pour fabriquer des trucs intéressants, et bien
allons-y. Des jouets.
Alors de l'utilité du jouet et de la fabrication de l'enfance, nous parlerons dans toute l'émission. En tout cas, il y a matière à discuter, quoi. Il y a vraiment des tonnes de richesses sur Terre, et dont certaines ont été créées par les humains, à se partager.
Ouais.
Vivement la quille pour tous les travailleurs et travailleuses qui fabriquent des trucs qui les tuent et qui sont mauvais pour les autres aussi.
Ouais. Tu parlais du nucléaire, et on va reparler du nucléaire. Je sais pas si on va s'arrêter un instant avant de parler des lignes à haute tension qui sont en train de se construire dans la Manche et qui sont censées relier le réseau Flamanville, le PR de Flamanville, aux lignes qui passent par Rennes, qui pour relier la Bretagne et puis Le Mans.
Youpi! Après la pub, qu'est-ce que je dis? Les locaux de Fun Radio, où c'est vrai que j'ai tout le temps la pub à annoncer. C'est-à-dire, ici, on n'a pas de pub à annoncer. Grand big up pour les radios associatives.
C'est bon, t'es en vacances de Fun Radio, arrête.
après la musique, c'est alors la dernière musique qu'on a écrite, on a dit on en parlera un petit peu après.
C'était Killing an Arab, donc de The Cure. Juste en parler vite fait pour dire que c'est une chanson qui avait causé pas mal de tort à Robert Smith et au groupe The Cure dans les années 80, parce que en fait Killing an Arab, pour les non anglophones, ça veut dire tuer un arabe, et qui avait donc été en fait un espèce qui était devenu un espèce d'hymne pour les groupes des néo-nazis et de fachos et tout. Et Robert Smith avait quand même tenu à préciser que cette chanson, elle s'inspirait du livre d'Albert Camus, L'étranger, et que ça reprend effectivement la scène du meurtre par le narrateur de ce livre, où il tue un arabe, voilà, et que c'est une référence et un hommage à Albert Camus, et non une incitation au meurtre xénophobe.
Albert Camus, que nous saluons au passage, malgré sa tentative de détruire un platane, c'était pas un platane de la place du Doua,
voilà.
Mais c'est vrai qu'il s'est détruit lui-même, du coup.
Je crois qu'il était en Citroën.
On fait des liens complètement incroyables. Un éminent anarchiste.
Il roulait pas au gaz de schiste ?
Ah, oui.
Non, mais il avait un projet d'installer un brûleur de charbon espagnol.
Un éminent anarchiste qui nous a quittés il y a plusieurs années. La prochaine musique, et puisqu'on désannonce la dernière, on annonce la première, c'est un hommage aux Asturies. Alors, comment ça s'appelle ? Ouais. Car c'est un morceau de... On la connaît, parce qu'elle est passée dans le Diwa. Elle est passée, souvenez-vous, le squat du plan rompu, c'est France Émotion. Elle nous a fait des purs riffs.
Quelle nostalgie.
Yeah. Yeah. Vivi refrain, et ce morceau s'appelle On Trembling Earth, sur la terre qui tremble, ami mineur, ami mineuse, insultura, Lili refrain, hommage aux Asturies. Alors Lily Refrain, t'étais venue dans la Drôme, t'avais bien aimé. Il faut savoir que dans la Drôme, en ce moment, on peut se baigner dans la Mérose, aussi juste au-dessus de Die, dans d'autres rivières, et on peut s'y baigner tout nu, c'est beaucoup plus agréable. Voilà, spéciale dédicace à JC qui m'a parlé de... C'était important de faire cette remarque à la radio. On peut s'y baigner tout nu, bien sûr, même dans toutes les places. Il y a juste à la piscine, c'est peut-être un peu surveillé.
Je crois que c'est interdit même.
Ouais, peut-être.
C'est un peu nul.
Ou en tout cas surveillé. Et du coup, parce que si c'est interdit mais que c'est pas surveillé, en fait, on peut tout à fait légitimement se dire Freikörperkultur, culture du corps libre, une habitude de nos amis allemands qui a tendance, grâce au tourisme dans la Drôme, à s'européaniser. Et effectivement, dès qu'il y a baignade, on n'est pas du tout obligé de se textiliser avec ces tchadors occidentaux qu'on appelle les maillots de bain. Non, on peut s'en passer, on peut se dévoiler. Retour au grand projet avec la THT. T'es contente, hein?
T'es
contente, hein?
T'es acheté.
Moi, je vais pas acheter, non?
Ah, je suis content, moi, les amis.
Bon, de toute façon, on n'est pas à vendre.
Alors, le fil rouge.
Le fil rouge, on reprend le fil
sur
rouge.
Sur le micro rouge.
Tout à fait. La THT, qu'est-ce que c'est? La THT, c'est une ligne à très haute tension. En l'occurrence, qui, donc, comme l'a dit mon camarade avant ce morceau de Lily Refrain, qui est censé relier la future centrale de Flamanville, le PR, et aussi la centrale du Tricastin, là, qui est déjà en fonctionnement, à toute une partie du réseau d'électricité de l'Ouest. Et ce, en implantant un pylône tous les 400 mètres, en empruntant la voie la plus droite possible, donc peu importe ce qui se trouve sur le passage de la ligne. Et il se trouve que, justement, sur ce passage de la ligne, il y a quand même pas mal de gens qui habitent ou qui cultivent différents légumes ou plantes destinées à l'alimentation.
Puis qui vivent aussi.
Qui vivent aussi, oui. Et il y a aussi des animaux qui vivent. Alors après voilà, hein, c'est des animaux, c'est de l'élevage. Donc on va pas rentrer dans cette discussion, mais bon voilà, il y a des animaux qui sont. Et ça a des conséquences assez néfastes, bizarrement, d'avoir du je sais pas combien de milliers de volts dans la tronche.
C'est 40 000,
400 000 volts.
400 000 plutôt.
400 000 volts. Ouais. Deux fois 400 000 volts.
Ah ouais.
C'est pas rien,
ce gabarit.
Et donc, ouais, voilà, ils ont 400 000 volts qui leur passent à côté des oreilles en permanence. Et donc, ça peut avoir quelques incidences. J'ai essayé de mettre vos doigts dans une prise de 220 volts. Et multiplier ce courant par je ne sais pas combien.
Alors même sans mettre vos doigts, on sait que rien que pour le 50 Hz de nos maisons est suffisamment nocif en pollution électromagnétique, et cette pollution électromagnétique, c'est celle-là aussi qui est multipliée par des milliers aux alentours, à plusieurs centaines de mètres d'une ligne très haute tension.
Mmh. Ouais. Et ils ont, y compris, ils ont fait des études et ils ont, enfin, de toute façon, les agriculteurs et les éleveurs n'ont pas besoin d'avoir fait des études pour voir que leur bétail pète complètement un plomb quand on leur installe une ligne haute tension, sans faire de mauvais jeu de mots. Et donc, du 22 au 24 juin, il y avait un week-end de résistance qui était organisé au Chefren. Qui est un lieu dit sur la commune de Montabeau, dans la Manche, qui résiste depuis 2006 à ce projet de THT, et qui résiste, en fait, c'est une opposition unanime, quoi. Puis vu que même le maire et ses adjoints sont opposés au projet, et que devant la fin de non-recevoir qu'ils ont toujours reçu, ils ont fini par démissionner. Et il y a eu, alors je sais pas, est-ce que ça vaut le coup de lire le texte? Il est un petit peu long, en même temps il est pas mal. On peut le lire.
Ouais, allez.
Voilà, un texte qui relate ce week-end de résistance qui a fini dans une répression assez terrible.
Donc fin juin, donc c'était ça.
C'était fin juin, ouais, du 22-24 juin. Le 24 juin 2012, sur la commune de Montabeau, Manche, nous avions donné rendez-vous aux forces de l'ordre et notre invitation a bien fonctionné. Elles étaient là. L'assemblée du Chefren avait décidé en mars d'organiser un week-end de résistance au projet de ligne THT Cotentin-Maine, actuellement en construction, avec pour ambition de créer des interférences sur la ligne. La commune du Chefren résiste depuis le début, depuis 2006. Elle ne veut pas de THT sur son territoire. Il y a, parallèlement à cette opposition officielle, une ribambelle d'actions qui ont été menées contre des pylônes du matériel de RTO. RTE, c'est, réseau, c'est le réseau, enfin c'est la boîte qui achemine, c'est une boîte EDF qui achemine, qui s'occupe de l'acheminement de l'électricité.
Qui s'occupe du réseau.
Ouais, voilà,
c'est du réseau. Propriétaires, les nouveaux propriétaires du réseau après le démantèlement d'EDF, un truc comme
ouais,
ça.
Ouais, voilà, ouais, qui est un rejeton d'EDF, quoi, en fait, mais de EDF privatisé, quoi. Et donc, nous sommes venus soutenir ces rebelles car le problème est mondial. Oui, mondial. Les masses médias oubliant systématiquement le fond du problème, nous sommes obligés de rappeler systématiquement qu'ils font partie intégrante du régime totalitaire dans lequel nous vivons. La société du spectacle et la manipulation de masse des opinions a succédé aux dictatures directes et brutales du XXe siècle. Il n'y a plus besoin de tuer des opposants politiques qui pensent autrement que le pouvoir central. Il suffit de mentir partiellement sur eux dans les masses médias, de détourner le sens de leurs actions et de leurs paroles. Mentir partiellement est nettement plus efficace que mentir de manière éhontée. C'est encore ce qui s'est passé avec les articles de West France, par exemple. Bien mal avisé celui qui ne lit que cette presse de propagande du préfet. Après tant d'années de résistance, le maire du Chefren a fini par démissionner de son mandat et ses conseillers aussi. La pression venant du préfet s'est accentuée au fur et à mesure que la ligne se construisait. L'histoire du camp gaulois qui résiste avec une potion magique, c'est de la bande dessinée. Et là, on en est loin. L'avant-veille du camp, le 20 juin à 6h du matin, des gendarmes mobiles ont défoncé la porte d'entrée du château d'eau communal, ont violemment expulsé les gens qui y dormaient, puis ont confisqué le matériel qui y était entreposé. Banderoles, affiches, tracts, ficelles, scotch. Un camion bâché est arrivé, des militaires en sont descendus et ont investi le château d'eau. Le maire s'est alors rendu sur place avec une écharpe tricolore. Alors, va savoir que signifient ces couleurs. A expliqué que le bâtiment communal avait été légalement prêté à une association, loi 1901, mais les nouveaux squatteurs sont restés sur place. Il faut dire que d'en haut du château d'eau, les forces de l'ordre avaient une excellente vue sur le camp de résistance, mais aussi sur les pylônes 221, 222 et 223 situés sur la colline en face à Montabeau. Au camp, le samedi 23 juin après-midi, un adjoint du maire du Chefren est venu et s'est lancé dans un témoignage de leur combat pendant toutes ces années. Au bout de 10 minutes à revivre les épisodes de leur lutte, sa voix s'est étranglée lorsqu'il a voulu remercier les 300 jeunes qu'il avait devant lui d'être venus les supporter. L'émotion l'a empêché d'en dire plus. Un éleveur victime en 1981 de la construction de la première ligne THT en Cotentin a parlé du combat qu'il mène depuis, puisqu'il a toujours refusé les sommes d'argent proposées par EDF et les cabinets ministériels en échange de son silence. De la nature des sols dépend des phénomènes d'induction qui perturbent les animaux. Dès qu'une ligne THT apparaît, les bêtes souffrent. Mais sur 6000 éleveurs en France, si 60 d'entre eux vendent leur exploitation pour la transformer en parcelle de céréales à cause de la ligne, l'État s'en contrefiche. La justice a suivi, comme Himmler a suivi Hitler. Jamais un éleveur n'a obtenu gain de cause face à RTE, EDF et l'État. Le juge oublie son devoir comme on efface la craie sur un tableau noir, et l'on est censé oublier ce qui est présenté comme des cas isolés. La ligne THT Cotentin-Maine est le pur produit de la mafia des cupides autoritaires qui organisent le régime totalitaire en France et ailleurs. Cette ligne participe à la création d'un gigantesque réseau de circulation d'informations mondiales avec non seulement vente d'électricité, mais aussi contrôle des populations et automatisation de leurs échanges avec l'administration centrale. Le courant électrique sera produit par des éoliennes en mer du Nord, par des centrales nucléaires comme l'EPR de Flamanville, mais aussi mécaniquement par les 3 réacteurs de Tricastin qui sont maintenant libérés de l'alimentation électrique de l'usine Eurodif qui a fermé. On vient d'apprendre qu'il y a une ligne THT en prévision dans le Pas-de-Calais à Arras. En Allemagne, pas moins de 5 lignes THT sont programmées pour évacuer l'électricité des parcs éoliens offshore de la mer du Nord vers toute l'Europe. La THT de Perpignan, enfouie, servira pour l'électricité solaire venant du Sahara. Bref, les lignes THT sont des infrastructures juteuses qui font faire des sacrées affaires aux producteurs d'électricité et de services d'acheminement d'informations. La France, comme disait Talleyrand sous l'Empire, c'est une bonne affaire. Concernant notre action, il n'était bien sûr pas question pour les forces de l'ordre de nous laisser accéder aux pylônes le jour prévu. Ils ont donc encerclé le camp dès le soir du 23 et il n'y avait aucune autre possibilité qu'une rencontre frontale. À Valognes, le 23 novembre 2011, quelques enfants de la Liberté avaient pu accéder aux voies de chemin de fer pour saboter la ligne SNCF et rabattre le caquet à Areva et son papa l'État en retardant le départ du train de Nuclear Merchandising vers l'Allemagne. À Montabeau, le 24 juin 2012, il n'y avait qu'une seule issue dans le bocage normand, les pierres contre les grenades, une marche pour l'honneur. Avec deux blessés à l'œil et deux à la jambe, plus un jeune arrêté après avoir été tabassé, le bilan est honnête, car il faut bien reconnaître que s'ils avaient voulu, ils auraient pu l'alourdir. Une vingtaine de gendarmes mobiles ont repoussé 250 manifestants jusque dans leur camp, les bronches pleines de gaz CS, à la limite de l'asphyxie. Ils avaient de quoi les exterminer. Beaucoup de lecteurs se poseront la question de l'inconscience. À quoi cela sert-il de caillasser pour caillasser ? Il nous apparaît que parmi les différentes mouvances qui refusent le régime totalitaire, celles qui prônent l'action directe, la violence, la clandestinité, ont pu avoir du crédit dans ce qui s'est passé à Montabeau. Le dilemme se posait en 1941-43 en France occupée. Les actions violentes des FTPF, les francs-tireurs et partisans, semblaient démesurément faibles vu l'effet produit sur l'adversaire. Si la violence est en soi condamnable, il faut comparer celle produite par les enfants de la Liberté à Montabeau en 2012 à celle perpétrée en permanence par l'État et ses myriades d'entreprises cupides autoritaires. La fabrique de l'exclusion sociale et de la précarité au service de la baisse du coût du travail, le chômeur ou le feignant comme nouveau juif à culpabiliser, dénoncer et discriminer. Une fois qu'on a vu mais surtout vécu la violence institutionnelle, on trouve que lancer une pierre sur une corde de professionnels de la guerre, c'est peu de choses, même si cela n'a rien de glorieux, car nous sommes tous faits pareils. Nous savons que les forces de l'ordre nous fichent et qu'elles n'hésiteront pas à nous arracher à nos vies sur Terre si nous venions à obtenir un crédit auprès des gens. Notre seul espoir à tous, par-delà les frontières, c'est qu'une grande masse parvienne à réaliser dans quel monde elle vit, prenne conscience de sa vie. Ceci afin de faire tomber la mainmise des masses médias sur le cerveau qui annule les informations des organes sensitifs, comme l'éblouissement de la pleine lune, la fraîcheur de la mare, le claquement d'un bec sur l'écorce, les paroles des vieux, la courbe d'un nu. À la lecture de ce compte-rendu, nous pensons avoir fait passer l'essentiel. Notre détermination n'a fait que grandir, s'affermir sur le camp de résistance du Chefrenne. Nous appelons à l'utilisation de la diversité pour construire un mouvement d'une ampleur considérable, dont la base ne devra jamais céder un pouce de terrain, ni à la société nucléaire et son monde, ni au gouvernement représentatif, dont les deux organes, la pyramide des élus et la pyramide des fonctionnaires, organisent l'impuissance politique du peuple avec l'instrument des masses médias.
C'était un communiqué de...
Voilà, c'est un communiqué du collectif anti-THT. Donc voilà, qui écrit à chaud après cette répression brutale. Et dans la note, il précise que en fait, c'est 6 personnes qui ont été blessées, dont une par de multiples éclats sur tout le corps. Et voilà.
Il y a moins d'un mois, et encore maintenant, la guerre sociale fait rage. Vous écoutez Feu de tout bois sur Radio Diwa. Il est 9h-10 et ça me fait penser à des trucs, mais qu'est-ce qu'on fait
Ça me fait penser aussi à des trucs. Allez. Parce que moi, je me disais avec ce fil rouge, je pense qu'on pourrait en faire un truc, quoi. On pourrait parler aussi avec ce fil rouge, je pense qu'on pourrait tricoter quelque chose qui ressemblerait, grosso modo, si on se débrouillait bien, à une critique un peu plus avancée de la société dans laquelle on vit, parce qu'on a vu finalement que les différents projets d'aéroports, de lignes à haute tension, de projets de stade, de TGV, et ainsi de suite, sont tout ce qui est. Pour faire rouler des TGV, il faut des centrales nucléaires pour produire l'électricité. Pour faire pareil, pour faire d'ailleurs fonctionner un aéroport, et qui c'est qui construit cet aéroport, c'est Vinci.
Pour les faire accepter, il faut des matchs de foot.
Pour les construire, il faut des entreprises comme Vinci, qui construit donc l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et le qui va construire, espérons-le pas, le stade de Lyon. Et toutes ces choses se collisionnent et ça rejoint un peu une critique plus large où on n'a aucun mot à dire sur les projets qui se déroulent et que le capitalisme organise le territoire comme il l'entend, il prend l'énergie là où il le veut et au mépris de la population et peu importe les conséquences, il construit des lignes à haute tension et des lignes TGV des lignes DGTV qui servent à aller de plus en plus vite pour travailler de plus en plus plus loin de chez soi, par exemple, et transporter de plus en plus de marchandises qui vont polluer de plus en plus. Enfin, voilà, il y a un truc à tricoter dans là.
Voilà, il y a des liens aussi sur le fait de. Je crois qu'il y a des. Il me semble qu'il y a des déboulonnages de pylônes qui ont eu lieu après fin juin. Donc ouais. la lutte continue. Il y a plusieurs centaines de pylônes et il y a du boulot pour les déboulonneurs et déboulonneuses. Ça me fait penser qu'il y a aussi à la grande époque de construction des centrales nucléaires dans la Drôme, il y a eu des déboulonnages de pylônes. Dans la Drôme aussi, donc quelques vétérans agriculteurs pourraient vous parler si vous les croisiez. Et puis maintenant, il y a prescription, alors, du coup, voilà, même depuis quelques années. Et pour faire accepter tout ça, quand les matchs de foot ne marchent pas, il y a aussi l'armée bien utile pour protéger les pylônes, protéger les centrales nucléaires. La centrale de Flamanville, par exemple, est entourée de marais, d'anciens marais salants. Et alors, un des plans militaires de l'armée française, l'armée d'occupation du capitalisme et de l'État sur le Cotentin, car nous sommes en territoire occupé, nous sommes sur et le plan en cas d'incident sur ou d'accident sur cette centrale de Flamanville future, c'est de réinonder toute cette zone afin que les habitantes irradiées ne puissent pas sortir et afin que les autres ne puissent pas y entrer. Donc on a une gestion comme ça. Ensuite, c'est l'armée qui choisira de façon discrétionnaire qui peut sortir, qui peut pas venir. En tout cas, l'armée prévoit d'isoler cette centrale du reste du monde s'il y a un souci. Tant pis pour les habitants-habitantes. Ça me faisait penser à ça. Cette ligne THT donc est bien stratégique et on comprend que le capital mette les moyens pour la défendre.
Et d'ailleurs, ça me fait penser pour clore le sujet, peut-être, parce que là on va mettre un dernier petit free jazz ou quoi, apparemment. J'avais lu un extrait assez rigolo d'une note confidentielle d'un membre de EDF disant que, en substance, autant on pouvait foutre 10 pelotons de CRS. Devant une centrale nucléaire pour empêcher des manifestants de la bloquer ou de l'occuper ou quoi que ce soit, autant on ne peut pas mettre un flic derrière chaque pylône. Et c'est lui qui le dit.
À vous, Cléa Moulinette, pour ne pas faire un appel direct.
Bon, alors on va s'écouter un dernier morceau free jazz de John Coltrane. Ça... Ouais, tu peux
on peut le lancer, et puis on commence à parler, alors d'accord, ok. Ouais.
Et dimanche, il y a donc un concert à Polyane entre Luc et Luzeran, si vous voulez y venir. Ça va être sympathique comme tout.
Et
on aura l'occasion de reparler du free jazz, parce que je pense que c'est un grand mouvement de contestation, pas toujours compris au niveau musical, mais en tout cas qui a eu son importance aussi.
On peut en écouter un petit peu et puis on reparle de ce que c'est que ce morceau et on rappelle un peu les dates de l'agenda. bientôt dans le DIY et ailleurs, on peut voir un concert à Polyan dès dimanche 18h. Concert brésilien. En ce moment, un camping au Val Souza pour lutter contre le train grande vitesse Lyon-Turin. En ce moment, on peut visiter le campement d'opposition au méga projet de stade à Lyon, à Décines. Fin juillet, dernier week-end de juillet, Rocking Gats. Mercredi 8 août, création soins, le début d'un grand cycle pour en finir avec la psychiatrie à Marie-Vieille. Et la semaine prochaine, feu de tout bois, le jeudi soir, à 19h30 jusqu'à 21h. Ce free jazz.
Le free jazz, c'était un peu une manière pour les jazzman américains noirs de revendiquer un peu leur caractère propre noir de cette musique jazz et d'en faire quelque chose qui sortait des schémas classiques avec beaucoup d'improvisation pour faire quelque chose qui soit pas un truc easy listening, quoi, très facilement écoutable qu'on met comme le jazz à papa ou le jazz d'ascenseur qu'on met dans chez soi. Et là, il y a une recherche musicale qui vise à un peu briser toutes les barrières classiques de la musique comme on l'entend traditionnellement, ses notes et ses partitions et ses choses qui reviennent mélodiquement au même moment, au même instant. Il y a une liberté et aussi une revendication de beaucoup derrière en général ce genre de musique de la place des Noirs dans la société américaine.
On a une petite interruption technique, le studio est à nous pendant encore 30 secondes, 40 secondes, une minute. Est-ce qu'il y a du free jazz vocal aussi?
Il y a eu, en fait, le free jazz s'est inspiré tout un tas de choses qu'on... En tout cas, dans le thème de la liberté d'expression et d'improvisation, il y a du jazz, il y a du free jazz vocal, mais après, peut-être ça s'appelle du free jazz, mais en tout cas, cette... Le fait de pas se donner de briser un peu les repères classiques de la musique, oui, ça a donné lieu à des choses dans le rock comme dans plein d'autres musiques, types de musique, des choses assez variées, assez étranges, assez saugrenues.
Et là, qu'est-ce qu'on écoute ?
On écoute John Coltrane et on écoute Living Space. Et ça donne des choses des fois un peu dissonantes. We'll be right back.